Vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. La voilà donc vaincue, cette femme superbe qui avait osé croire qu'elle pourrait me résister. Oui, mon ami, elle est à moi, entièrement à moi, et depuis hier, elle n'a plus rien à m'accorder. Je suis encore trop plein de mon bonheur pour pouvoir l'apprécier, mais je m'étonne du charme inconnu que j'ai ressenti. Ce n'est pas comme dans mes autres aventures une simple capitulation plus ou moins avantageuse et dont il est plus facile de profiter que de s'enorgueillir. C'est une victoire complète, achetée par une campagne pénible et décidée par de savantes manœuvres. Il n'est donc pas surprenant que ce succès, dû à moi seul, m'en devienne plus précieux. Il était 6 heures hier soir, quand j'arrivai chez la belle recluse, car depuis son retour, sa porte était restée fermée à tout le monde. Elle essaya de se lever quand on m'annonça, mais ses genoux tremblants ne lui permirent pas de rester dans cette situation. Elle se rassit sur le champ. Après avoir exposé en peu de mots que le père Anselme l'avait dû informer des motifs de ma visite, je me suis plaint du traitement rigoureux que j'avais éprouvé, et j'ai particulièrement appuyé sur le mépris qu'on m'avait témoigné. Comme on gardait le silence de l'embarras, j'ai continué. J'ai désiré, madame, ou de me justifier à vos yeux, ou d'obtenir de vous le pardon des torts que vous me supposez, afin de pouvoir au moins terminer avec quelque tranquillité des jours auxquels je n'attache plus de prix depuis que vous avez refusé de les embellir. Ici, on a pourtant essayé de répondre, mon devoir ne permettait pas, et la difficulté d'achever le mensonge que le devoir exigeait n'a pas permis de finir la phrase. J'ai donc repris du ton le plus tendre. « Il est donc vrai que c'est moi que vous avez fui ? Ce départ était nécessaire. Et que vous m'éloignez de vous ? Il le faut. Et pour toujours, je le dois. Je n'ai pas besoin de vous dire que pendant ce court dialogue, la voix de la tendre prude était oppressée et que ses yeux ne s'élevaient pas jusqu'à moi. Je jugeais devoir animer un peu cette scène languissante, ainsi me levant avec l'air du dépit. « Votre fermeté, dis-je alors, me rend toute la mienne. Eh bien, oui, madame, nous serons séparés, séparés même plus que vous ne pensez, et vous vous féliciterez à loisir de votre ouvrage. Vous avez voulu que je sois malheureux. Je vous prouverai que vous avez réussi au-delà de vos souhaits. »« Je désire votre bonheur, » répondit-elle, et le son de sa voix commençait à annoncer une émotion assez forte. Aussi me précipitant à ses genoux et du ton dramatique que vous me connaissez, « Ah, cruel, me suis-je écrié, peut-il exister pour moi un bonheur que vous ne partagiez pas ? Où donc le trouver loin de vous ? Ah, jamais, jamais, j'en fais le serment à vos pieds, vous posséder ou mourir. » En prononçant ces dernières paroles, nos regards se rencontrèrent. Je ne sais ce que la timide personne vit ou crut voir dans les miens, mais elle s'échappa de mes bras dont je l'avais entourée. Il est vrai que je ne fis rien pour la retenir. Je suis bien malheureux. J'ai voulu vivre pour votre bonheur et je l'ai troublé. Je me dévoue pour votre tranquillité et je la trouble encore. Pardon, madame. Peu accoutumée aux orages des passions, je sais mal en réprimer les mouvements. Si j'ai eu tort de m'y livrer, songez au moins que c'est pour la dernière fois. Je suis venu, n'est-il pas vrai, pour vous rendre vos lettres. De grâce, daignez les reprendre. Ce douloureux sacrifice me reste à faire. Ne me laissez rien qui puisse affaiblir mon courage. Et tirant de ma poche le précieux recueil, « Le voilà, dis-je, ce dépôt trompeur des assurances de votre amitié. Il m'attachait à la vie, reprenez-le. Donnez ainsi vous-même le signal qui doit me séparer de vous pour jamais. » Ici, l'amante craintive céda entièrement à sa tendre inquiétude. « Mais, monsieur de Valmont, qu'avez-vous et que voulez-vous dire ? La démarche que vous faites aujourd'hui n'est-elle pas volontaire ? N'est-ce pas le fruit de vos propres réflexions ? Et ne sont-ce pas elles qui vous ont fait approuver vous-même le parti nécessaire que j'ai suivi par devoir ? Eh bien, ai-je repris, ce parti a décidé le mien. Femme adorable, lui dis-je en risquant l'enthousiasme, vous n'avez pas idée de l'amour que vous inspirez. Vous ne saurez jamais jusqu'à quel point vous fûtes adorée et de combien ce sentiment m'était plus cher que mon existence. Puissent tous vos jours être fortunés et tranquilles. Puissent-ils s'embellir de tout le bonheur dont vous m'avez privé. Payez au moins ce vœu sincère par un regret, par une larme, et croyez que le dernier de mes sacrifices ne sera pas le plus pénible à mon cœur. Adieu. » À ce dernier mot, elle se précipita, ou plutôt tomba évanouie dans mes bras. Elle ne revint à elle que soumise et déjà livrée à son heureux vainqueur. Je m'attendais bien qu'un si grand événement ne se passerait pas sans les larmes et le désespoir d'usage. Mais je trouvais une résistance vraiment effrayante, moins encore par son excès que par la forme sous laquelle elle se montrait. Figurez-vous une femme assise, d'une raideur immobile et d'une figure invariable, n'ayant l'air ni de penser, ni d'écouter, ni d'entendre, dont les yeux fixes laissent échapper des larmes assez continues, mais qui coulent sans effort. Telle était Madame de Tourvel pendant mes discours. Mais si j'essayais de ramener son attention vers moi par une caresse, par le geste même le plus innocent, à cette apparente apathie succédait aussitôt la terreur, la suffocation, les convulsions, les sanglots, et quelques cris par intervalle, mais sans un mot articulé. Ces crises revinrent plusieurs fois, et toujours plus fortes. La dernière même fut si violente que j'en fus entièrement découragé et craignis un moment d'avoir remporté une victoire inutile. Je me rabattis sur les lieux communs d'usage, et dans le nombre se trouva celui-ci. Et vous êtes dans le désespoir parce que vous avez fait mon bonheur ? À ce mot, l'adorable femme se tourna vers moi, et sa figure, quoique encore un peu égarée, avait pourtant déjà repris son expression céleste. « Votre bonheur, me dit-elle, vous êtes donc heureux, et heureux par moi ? Vous avez raison. Je ne puis plus supporter mon existence qu'autant qu'elle servira à vous rendre heureux. Je m'y consacre tout entière dès ce moment. » Je me donne à vous, et vous n'éprouverez de ma part ni refus, ni regret. » Ce fut avec cette candeur naïve ou sublime qu'elle me livra sa personne et ses charmes, et qu'elle augmenta mon bonheur en le partageant. L'ivresse fut complète et réciproque, et pour la première fois la mienne survécut au plaisir. Je ne sortis de ses bras que pour tomber à ses genoux, pour lui jurer un amour éternel, et, il faut tout avouer, je pensais ce que je disais. Enfin, même après nous être séparés, son idée ne me quittait point, et j'ai eu besoin de me travailler pour m'en distraire. Ah, pourquoi n'êtes-vous pas ici pour balancer au moins le charme de l'action par celui de la récompense ? Dépêchez-vous donc de renvoyer votre pesant belle roche, et laissez-là le doucereux Danceny pour ne vous occuper que de moi. Mais que faites-vous donc tant à cette campagne que vous ne me répondez seulement pas ? Savez-vous que je vous gronderais volontiers ? Mais le bonheur porte à l'indulgence, et puis je n'oublie pas qu'en me replaçant au nombre de vos soupirants, je dois me soumettre de nouveau à vos petites fantaisies. Souvenez-vous cependant que le nouvel amant ne veut rien perdre des anciens droits de l'ami. Adieu, comme autrefois. Oui, adieu mon ange, je t'envoie tous les baisers de l'amour. Post-scriptum. Savez-vous que Prévan, au bout de son mois de prison, a été obligé de quitter son corps ? C'est aujourd'hui la nouvelle de tout Paris. En vérité, le voilà cruellement puni d'un tort qu'il n'a pas eu, et votre succès est complet. Ce 29 octobre.